7h13, il est maintenant le temps d'aller pour une jasette de politique internationale. Puis là, ben il faut inviter notre expert en politique, Louis Gauthier, qui est au téléphone. Bonjour Louis.
Allô Caro, ça va bien? Bonjour Yann.
Bonjour.
Bonjour Louis, faut se dire que chaque fois qu'on s'appelle pour jaser, on te retrouve à un différent lieu chaque fois. Là aujourd'hui, t'es, si je comprends bien, à Fayetteville en Caroline du Nord.
Ben oui, c'est des contrats que je prends là pour faire la logistique dans le transport procédure douanière pour m'assurer que tout rentre bien comme il se doit au Canada.
Bon. Hey, c'est toujours intéressant.
C'est toujours intéressant parce qu'on se demande tout le temps où est-ce que
c'est
tu
ça. Vas. Oui. On sait pas où tu es alors qu'on dit on se rencontre à telle heure.
On se tient assez informé avec tout ce qui se passe dans les 72 dernières heures à travers la planète.
Ben oui, voilà. C'est ça ce qu'il faut. Ben écoute, rentrons tout de suite dans le sujet du jour, de la fin de semaine. Vraiment, on a appris qu'à l'Afghanistan, on voit que c'est maintenant entre les mains des talibans. On a vu que le gouvernement s'est effondré, le président Ashraf Ghani s'est enfui à l'étranger. Ça fait 20 ans qu'ils sont en guerre, pourtant. Et puis, maintenant, en une dizaine de jours, ce groupe fondamentaliste islamiste a repris le contrôle pas mal du pays. Comment est-ce qu'on est arrivé là? Est-ce qu'on peut savoir comment ça s'est rendu là, cette situation?
Ben écoute, Caro, c'est l'autopsie d'un désastre annoncé depuis plusieurs années, plusieurs décennies, plusieurs siècles. Hmm. C'est le même que je le dirais.
Okay.
Il y a 20 ans, on va commencer par le début, pourquoi qu'on est arrivé là. Il y a 20 ans, là, l'Afghanistan, il faut savoir où c'est situé sur la carte géographique. À l'est, on a la République populaire de Chine. À l'ouest, on a l'Iran. Au sud, on a le Pakistan. L'Afghanistan, c'est quoi? Eh bien, c'est une terre très aride. Pour avoir déjà mis des pieds là-bas, très, très chaud le jour, très, très froid la nuit, très montagneux. Mm-hmm. Et c'est un territoire propice pour l'entraînement du terrorisme international. Qu'est-ce qui a évolué depuis 20 ans? Il y a 20 ans, les forces internationales ont réussi à chasser les talibans. Les talibans se sont donc réfugiés dans les montagnes et ils ont repris les forces là. Les forces sont venues de l'extérieur. Parce que la couronne nord de l'Afghanistan, c'est tous les pays comme l'Azerbaïdjan, l'Ouzbékistan, tous ces pays-là qui se finissent en un dans ces coins-là. Mm-hmm. Et il y a beaucoup, ce qu'on voit 20 ans plus tard, ce sont des forces fraîches, des forces étrangères qui viennent appuyer la cause talibane. Alors, c'est ce qu'on a vu. Parallèlement à ça, le mandat qu'on avait de nos forces internationales, c'est tout simplement d'essayer de mettre une armée démocratique en place, avec un gouvernement démocratique en place. Et on se souviendra à l'époque, avant le président Ashraf Ghani, il y avait le non moins célèbre Hamid Karzai.
Oui.
Hamid Karzai, il était là et il est encore là parce qu'il faisait partie des porte-parole et des négociateurs pour les talibans afin de promettre une transition pacifique du pouvoir. Mais les rapports qu'on avait, c'est que c'est pas de même que ça s'est passé. Les talibans qui promettaient d'une main une amnistie à tout le monde faisaient des massacres dans certains, passages qu'ils ont faits entre Jalalabad et Kaboul, la capitale. Mm-hmm. Alors, c'est des images qui sont arrivées. Je vous dirais par la bande, mais on essaie de faire ça longtemps. Puis moi, sur les réseaux sociaux, en fin de semaine, il y en a sûrement qui ont vu ça. Moi, j'appelle ça un Saigon 1975 version 2.0. Parce que c'est l'autopsie d'un échec annoncé. Les Russes l'ont fait en 1980. Les Allemands ont essayé pendant la Deuxième Guerre mondiale parce que c'est quand même un endroit, l'Afghanistan, qui est propice, comme je le dis, pour maintenir des académies de guerre.
Saigon, là, tu fais le lien avec le Vietnam, le retrait des troupes américaines du Vietnam.
C'est ça, parce que là, pour les gens qui nous écoutent présentement, on entend parler aujourd'hui de la guerre du Vietnam. Il y en a beaucoup qui n'ont pas connu c'était quoi la guerre du Vietnam. Mm-hmm. Mais là, je commencerai pas à faire l'autopsie de la guerre du Vietnam. Qu'est-ce que les Américains ont fait là. Mais ça ressemble étrangement à ce qui s'est passé. Puis là, ce qui est arrivé avec l'Afghanistan, moi, j'ai beaucoup, beaucoup de personnes. Je connais énormément de personnes qui sont des Forces armées canadiennes. Je connais beaucoup de soldats et de soldats qui ont perdu la vie là-bas. Et vous avez pas idée à quel point là je me sens depuis quelques jours de voir qu'on a laissé notre sang sur des terres dans une guerre qui a été faite, ce que je voudrais dire, une guerre électronique depuis 20 ans. Puis c'est triste à voir. Mm-hmm. Parce que les soldats qui sont retraités aujourd'hui ne parleront pas de ça. Puis ce qui est important de comprendre, là, c'est qu'à l'époque, c'est les politiciens qui ont décidé de gérer un conflit. Et il y a tout le temps eu un terme qui se disait en latin, « Laissons la guerre aux guerriers et le Sénat aux sénateurs.
Mm-hmm. »
Puis là, ce qui est arrivé à l'époque, ben écoutez, on se souvient ce qui est arrivé à une troupe de journalistes, de Radio-Canada à l'époque, qui allait en visite avec d'autres journalistes internationaux en partant de la base de Kandahar pour se rendre vers Kaboul.
Oui.
On commençait à avoir les dômes à ce moment-là pour faire analyser les routes. Parce que les routes, dans cet axe-là, là, qui est le Kandahar, là, on entend parler parce que c'est les bases internationales, la base canadienne qui était là, nos soldats canadiens étaient là. Mm-hmm. Ça se trouve être à peu près à 2 heures au sud-ouest de Kaboul.
Okay.
Alors, cette route-là, elle était énormément scrutée, là, je vous dis, là, à tous les quarts de travail, c'est des quarts de travail de 4 heures.
Ouais.
Là, ce qui est arrivé, c'est que pendant la nuit, on a voulu essayer de faire quelque chose avec ce qu'on va appeler, là, des intérêts privés qui étaient dans l'armée, puis les soldats n'aimaient pas vraiment ça à l'époque, mais on n'a pas parlé. Pour faire des essais de drones, des essais de surveillance, de désamorcer avec des robots, des bombes artisanales qui étaient sur la route. Puis cet accident-là, ce qui est arrivé, c'est justement, c'est que les drones, l'électronique n'a pas fait sa job, puis on a eu des dégâts. Alors, puis c'est arrivé souvent comme ça à l'époque.
Oui.
C'est une guerre, c'est un endroit où on a fait beaucoup d'expériences pour absolument rien, parce que ce qu'on a voulu vraiment arrêter, OK, si on recule de là 20 ans, ce qui est arrivé, là, c'est qu'on a éliminé OBL, Oussama Ben Laden.
Oui.
Mais il y avait une force qui prenait l'ampleur à cette époque-là, c'était l'État islamique. Puis il y a quelques années, on se souvient que le leader de l'État islamique en Afghanistan, Mullah Omar, est décédé, a été assassiné sur place parce que ça grimpait beaucoup. Puis l'État islamique, on sait ce qu'il faisait, il kidnappait des jeunes filles, des femmes, et il recrutait des jeunes hommes pour en faire des soldats de l'armée talibane. Et c'était très, très, très difficile. Puis les pays qui se sont présentés dans ces pays, dans Afghanistan, ont tout le temps énormément eu de difficultés à essayer de gérer un endroit qui leur appartient pas, qui est mal connu, qui est difficilement attaquable parce qu'il est facilement défendable. On a qu'à voir beaucoup de films que Hollywood a produits.
C'est vrai,
que,
oui.
C'est très facile à défendre, mais difficile à attaquer.
Ils sont dans les montagnes, puis ouais.
Ouais.
Et voilà. Alors là, on se retire de là. Puis moi, écoutez, je vis ça personnellement, ce qui se passe là-bas, parce que oui, je pense à la population afghane qui est au Canada, puis il y a quand même une population importante, communauté importante à Winnipeg. On essaie d'avoir des nouvelles de nos proches là-bas. Mm-hmm. Il y a une rumeur qui est passée qui était rapidement annulé par le gouvernement canadien en disant qu'on allait rapatrier des Afghans sans visa d'entrée au Canada et tout ça. C'est une vérité à demi-fausse ou une fausseté à demi-vraie.
Okay.
Parce que je vous annonce que ça va arriver. Là.
Ouais.
Ça va rentrer. Là. On va voir arriver ça sur la base.
Je dirais.
Ben oui, mais je me dis, il faut savoir parce qu'en ce moment, ça a été un grand chaos total à l'aéroport de Kaboul. Plein de citoyens qui essayent de fuir le pays. Ils demandent pour l'asile. Je veux dire, qu'est-ce qui va arriver? Est-ce qu'on pourra leur offrir cette entrée-là dans nos pays?
Bien, écoutez, ça va devenir un débat de l'élection. Parce qu'on sait qu'on a présentement un premier ministre qui nous a lancé en élection. Et lui, c'est un premier ministre, Justin Trudeau, qui opte énormément, qui a une très, très grande ouverture sur la diversité. Et c'est pendant ces derniers mandats qu'on a vu énormément d'immigrants rentrer au Canada. Puis il a été le dernier chef d'État à fermer les frontières pour permettre une réunification des familles. Alors, c'est sûr que ça va venir un débat. Ça va toucher des cordes sensibles. Mais moi, je m'attends là à peu près à 20 000 Afghanistans là, se réfugier au Canada en exil de guerre. Moi, je m'attends de voir ça dans les prochains mois.
20 000 Afghans qui arrivent au Canada dans les prochains mois?
Wow. Oui.
Wow.
Oui.
Revenons.
C'est les chiffres qui avaient été avancés il y a 20 ans.
Oui.
Ça n'a jamais changé parce que le protocole de l'ONU n'a pas changé à ce niveau-là. On n'en parle pas beaucoup dans les nouvelles, mais il faut reculer loin, loin, loin pour savoir qu'est-ce qui nous attend avec un conflit dans lequel on n'aurait jamais dû participer.
Ben c'est ça. Revenons au début, si tu permets, Louis, parce que est-ce que ça a à voir avec le 11 septembre puis le fait que les États-Unis avaient peut-être besoin d'un ennemi, parce que des situations terribles, là, puis sexistes, puis des gouvernements de ce genre-là, comme en Afghanistan, il y en a partout. T'sais, pourquoi avoir lancé les troupes en Afghanistan pour régler un problème qu'on n'est clairement pas capable de régler? Puis pourquoi nous, le Canada, avoir accepté de suivre les Américains là-dedans?
Premier élément de la question, Yann, là, c'est que l'Afghanistan était, comme je le disais au début, un camp d'entraînement pour toutes les troupes terroristes à travers le monde.
Okay.
Alors, pour les Américains, c'est important d'aller sur place et d'éliminer ce secteur-là. Mais c'est impossible, puis on le voit. Alors, la preuve pourquoi les terroristes réussissent à faire leur coup impunément à travers le monde, c'est parce qu'ils ont un endroit pour se pratiquer, puis c'est justement là.
Okay.
Quand on connaît Kaboul, puis on s'en va vers Jalalabad, là, c'est un secteur qui est très montagneux, là, puis c'est très difficile à atteindre. Parce que c'est dans des montagnes, il y a beaucoup de grottes, il y a beaucoup de places. On peut faire sauter une bombe là, puis il n'y a pas personne qui va s'en rendre compte. Alors c'est pour ça qu'on voulait vraiment aller là, parce que là on savait qu'Oussama Ben Laden, les troupes d'Oussama Ben Laden s'étaient entraînées là en Afghanistan pour les attentats du 9/11.
Oui.
Puis même en 1997, lorsqu'on avait essayé de faire effondrer les tours jumelles à New York, c'était montré là dans les cassettes, dans les documents qui avaient été trouvés lors de l'assassinat d'Oussama Ben Laden. On avait énormément, les forces spéciales avaient pris beaucoup d'informations là, puis c'est comme ça qu'on était capable de documenter qu'est-ce qui se préparait, puis le genre de terrain de pratique qu'il y avait en Afghanistan. Alors l'intérêt, ça a tout le temps été ça. Les Allemands, pourquoi pendant la Deuxième Guerre mondiale, les Allemands ont voulu aller là, c'était justement pour se pratiquer, puis les forces en présence, ils ont perdu parce qu'ils ne voulaient pas avoir personne sur leur terre. Tu sais, quand tu ne veux pas quelqu'un sur ton terrain, tu le chasses, mais ben, eux autres, ouais, sont bons là-dedans, puis ils connaissaient leur territoire. Après ça, les Russes ont essayé de faire la même chose parce que les Russes voulaient aller se pratiquer là lorsqu'ils étaient en conflit avec l'Ukraine. Alors, ils savaient que les Ukrainiens s'étaient entraînés là, qu'il y avait des armes là, ils ont essayé de rentrer là, ils n'ont jamais été capables. Alors, ils ont dû retirer. On n'a vraiment pas parlé de ça. Puis je reviens tout le temps à la Deuxième Guerre mondiale. On sait que la campagne allemande vers la Russie, ça a connu un échec, comme dans le temps de Napoléon.
Oui.
Mais on parle pas que cette avancée-là que les Allemands ont voulu faire en Afghanistan, c'était la plus atroce de leurs troupes à l'époque.
OK.
Alors, c'est pour ça. Maintenant, pourquoi le Canada s'est trouvé là, Yannick Caro? Eh bien, c'est parce que l'ONU nous l'a demandé. On faisait partie de l'OTAN à cette époque-là. Puis, il y a eu beaucoup, beaucoup de pression qui a été faite par notre voisin du Sud, les Américains, pour qu'on soit présent là, puis qu'on a fait une très, très grosse présence. Malheureusement, dans les conflits dans lesquels le Canada a participé, c'est peut-être l'une des plus coûteuses en vie humaine dans l'histoire moderne qu'on a eue. Puis moi, je dois vous dire personnellement, là, quand je me présente à un Tim Hortons au Canada, puis que je vois une plaque de vétéran devant moi, puis que c'est à mon tour de commander, je dis aux gens, à la personne, à la préposée, l'auto qui passe devant moi, c'est un vétéran. Alors, peu importe ce qu'il prend, je paie sa facture.
OK. Wow.
Je fais ça systématiquement depuis plusieurs années. Puis c'est important pour moi parce que payer une facture, c'est rien à ce que ces gens-là ont laissé sur le terrain. Et ceux qui sont revenus, là, on peut dire qu'ils sont chanceux, mais ils vivent avec des cauchemars en permanence.
Ah, c'est fou.
Parce que c'est vraiment pas beau ce qui s'est passé là-bas. Mm-hmm. Alors, il faut penser à eux, il faut les remercier. Puis moi, c'est ma façon à moi, de moi-même, mm-hmm. de les remercier, ces gens-là. Et c'est nos militaires, c'est les gens qui protègent notre territoire, puis ils sont allés protéger un territoire à l'étranger qui n'était pas protégeable ou qui n'était pas défendable.
Mm-hmm. Puis là, on a fini par le constater à un point où on décide de retirer nos troupes, les Américains retirent leurs troupes. Ça a été signé dans le temps de Trump, si je ne me trompe pas.
Ça avait été, lui, il l'avait annoncé, ça a été signé à ce moment-là, parce que ça coûtait cher. Tu sais, c'est, comment je pourrais vous dire ça? Vous avez un chauffe-eau à la maison, puis votre chauffe-eau a une durée de 10 ans. Vous essayez de le faire, fonctionner 5 ans de plus. Vous risquez d'avoir des problèmes. Vous risquez d'avoir des problèmes, puis vous mettez de l'argent, l'électricité coûte plus cher, votre eau chaude coûte plus cher, tout ça, ça mm-hmm. coûte tout le temps plus cher, jusqu'à temps que vous décidiez de changer le chauffe-eau. En Afghanistan, on était rendu, on met de l'argent là, ça n'a jamais fonctionné.
D'accord.
Parce que c'était une opération, elle était peut-être louable au début, parce qu'on disait que les terroristes s'entraînaient là, mais écoutez, ils ont plein d'autres places maintenant pour s'entraîner. Puis les talibans ont repris leur place. C'est tout simplement ça. Et le pire dans tout ça, c'est qu'on a formé un président, Hamid Karzai, à l'époque, qui va devenir leur chef, fort probablement, ou leur émissaire international.
Est-ce que ça voudrait dire qu'on va peut-être se situer ou on va renvoyer des soldats là-bas pour essayer de gérer tout ça maintenant ou non?
Non. Peut-être dans 10, 15, 20 ans, 50 ans, il y a un pays à quelque part qui va vouloir s'essayer à son tour.
Mm.
Peut-être que les talibans, là, ce n'est plus les talibans qu'on a vus il y a 20 ans. Ce sont des talibans organisés, il y a des gens d'affaires là-dedans, il y a un gouvernement qui est vraiment organisé sur place. Oui, ça représente pas nos valeurs, nécessairement, mais ça représente peut-être les leurs. Il y a énormément d'argent qui a été versé à la cause des talibans. Par des gens, même les Chinois, les armes qu'ils ont, là, ça vient du marché noir. Là.
Mm-hmm.
Puis on a des armes américaines, on a des armes allemandes, on a des armes russes, on a des armes britanniques. C'est rien, là. Mm-hmm. Alors, ils sont capables, ils ont de l'argent pour faire rouler ça. Maintenant, bon, écoutez, c'est sûr qu'on n'a pas être d'accord avec la façon dont ils vont vivre une certaine démocratie, les droits de l'homme, de quelle façon ça va être respecté là-bas. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que oui, il y a des gens qui vont être chanceux, qui vont s'en venir ici au Canada, qui vont se retrouver dans d'autres pays également, dans le cadre de l'armistice que les talibans semblent vouloir promettre. C'est un dossier qui reste à suivre. Je souhaite énormément de courage pour nos Canadiens d'origine afghane qui sont ici au Canada,
mm-hmm.
en espérant que ils vont être capables d'avoir des nouvelles de leurs proches qui sont demeurés là-bas très bientôt.
Mm-hmm.
Je dois dire que les canaux de communication, ils demeurent sur place, il n'y a rien de coupé, on est capable d'avoir de l'information. Oui, il y a quelques journalistes qui se sont approchés trop, qui ont perdu la vie au cours de la journée, mais Al Jazeera va être sur place, là, puis d'après moi, les informations vont venir par cette chaîne arabo-saoudienne.
Mm-hmm.
Alors,
ben,
tu avais raison
oui. de faire un parallèle avec le Vietnam un peu. C'est que c'est un échec complet au niveau des Américains qui ont essayé pendant une vingtaine d'années. Même chose avec l'autre conflit, d'aller un peu régler des problèmes qui leur appartiennent plus ou moins
ouais.
pour constater l'échec, puis revenir, puis les talibans reprendront leur place, puis la communauté internationale va devoir vivre avec ce gouvernement-là.
Mais Yann, écoute, les objectifs du début n'étaient pas la résultante à la fin.
Ouais.
C'est ce qu'il faut comprendre dans ce conflit-là. C'est carrément ça. Et le Vietnam, c'était la même chose. L'équation n'est pas compliquée là à essayer de résoudre dans ce cas ici. L'objectif au début, c'était de s'assurer que les terroristes et la terre de l'Amérique a été attaquée, puis on voulait s'assurer que ça se reproduise pas. C'est ça qu'on décidait il y a 20 ans.
Ouais.
Puis c'est de cette façon-là qu'on a convaincu le Canada également de participer pour s'assurer d'envoyer le plus de monde possible, puis de s'impliquer là-dedans. Puis nous, ben, on a été appelé l'armée canadienne justement parce qu'on avait une force technologique de pointe. Mais cette force technologique de pointe-là venait d'intérêts privés. Puis ça a pas fait un bon mariage à l'époque entre l'armée canadienne et les intérêts privés que le gouvernement canadien imposait à l'armée canadienne. Mm-hmm. Alors, tu sais, ça a mal commencé. Mais... on a été pris sur place, puis malheureusement, on a des nôtres qui en ont payé de leur vie.
D'accord. Est-ce que tu penses que ce territoire-là, qui est l'Afghanistan, va accueillir les djihadistes un peu partout dans le monde, puis que ça deviendra peut-être une terre fertile pour le mouvement djihadiste?
Est-ce qu'elle l'a déjà jamais été, hein?
OK. D'accord.
OK. Je vais vous poser la question. Tant mieux s'ils se retrouvent tous là. Tant mieux s'ils se retrouvent tous là, parce qu'ils vont être énormément surveillés par les forces internationales.
Oui, d'accord. Ben, c'est assez complet comme analyse sur le conflit en Afghanistan pour ceux et celles qui partaient de rien. On a une bonne analyse, mon cher Louis.
Merci beaucoup.